C'est bizarre. Alors, la pratique du jeûne, ce qu'en dit la Bible. Alors, d'un point de vue général, la chose sur laquelle on peut démarrer, c'est de rappeler que dans la Bible nous montre clairement que le jeûne est une pratique courante du peuple croyant. Le jeûne n'est pas quelque chose qu'on trouve de façon sporadique ou de façon épisodique dans des coins de la Bible ou dans des espaces de la Bible. Le jeûne est une pratique spirituelle que l'on trouve dans toute la Bible, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Vraiment, la Bible nous enseigne énormément sur ce sujet-là. Et nous voyons que le peuple croyant, le peuple de Dieu, est un peuple qui prie. Le peuple croyant est un peuple qui jeûne. Et donc, on va essayer... Merci Benoît, c'est très gentil. Ah, ça c'est vous alors. J'y suis pour rien, moi. Le peuple de Dieu est un peuple qui prie, est un peuple qui jeûne, est un peuple qui cherche la face de Dieu au travers de ses pratiques spirituelles. On peut passer. Ce qu'est le jeûne ? Alors, comme vous le savez tous, le jeûne, c'est une abstention totale ou partielle, volontaire, de désirs charnels naturels. Donc, premièrement, c'est une abstention volontaire, c'est un choix de s'abstenir volontairement ou partiellement de désirs charnels naturels volontaires, avec le désir charnel de base auquel tout le monde pense, c'est la nourriture. Je parle de désir charnel, mais en réalité, la nourriture, c'est d'abord un besoin. Donc, c'est pas d'abord un désir qu'on a, c'est un besoin qu'on a comme être humain de se nourrir. Et le jeûne constitue justement un choix, une décision, un engagement à s'abstenir de nourriture. Mais vous savez aussi, vous avez déjà certainement entendu beaucoup, que le jeûne, ce n'est pas que la nourriture. On peut jeûner de nourriture, on peut jeûner de plaisir précis, on peut jeûner de divertissement, rappelez-vous, on en a parlé il y a quelque temps, on peut jeûner de sexualité. Donc, pour rappel, nous avons un verset très clair qui nous parle du jeûne de sexualité dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre, il parle au conjoint. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Donc le texte ici parle clairement des relations sexuelles et dans le cadre du Nouveau Testament, vous savez que le Nouveau Testament considère que les relations sexuelles dans le couple sont une norme, sont quelque chose de normal, quelque chose qui doit faire partie de la vie du couple au quotidien. Et là, il parle d'une disposition de jeûne, c'est-à-dire que le couple décide pendant un temps de s'abstenir de relations sexuelles. Et là, c'est intéressant parce que clairement, le texte, vous le voyez, dit « afin de vous consacrer davantage à la prière ». Mais après cela, reprenez vos relations normalement. Donc vous voyez que on a le jeûne de nourriture, on a le jeûne de divertissement, on a le jeûne de sexualité. Donc il y a différents types de jeûne. Le jeûne, c'est la décision que je prends de m'abstenir de quelque chose pour me consacrer davantage à la prière, pour m'orienter davantage à la prière. On peut passer. Merci Olivier d'avance pour ton aide. Se consacrer à la prière. Alors, je vais déjà juste donner les grandes lignes. Ensuite, on verra des versets qui montrent un peu cela de façon précise. Le jeûne peut marquer différentes choses. Le jeûne peut marquer, premièrement, un besoin particulier qu'on ressent de se rapprocher de Dieu. J'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Je sens que là, pour l'instant, je suis égaré, je suis éloigné, j'ai un peu perdu le contact. Je veux me rapprocher de Dieu et donc je jeûne pour me rapprocher de Dieu. Le jeûne peut aussi exprimer un besoin de direction de la part de Dieu. Donc, on voit, et on va voir des versets tout à l'heure, que les chrétiens, le peuple croyant, les juifs, et puis ensuite l'Église, jeûnaient dans des temps où ils avaient besoin de recevoir une direction particulière de la part de Dieu. Je dois faire un choix, je dois prendre une décision, je ne sais pas par où aller, j'ai besoin que Dieu me montre clairement ce qu'il veut, et donc je me retire de ma vie normale, je me retire de mes habitudes normales pour prendre un temps où je vais écouter Dieu. Je vais faire taire mon corps, Je vais faire taire les envies de mon corps, je vais faire taire les bruits autour de moi pour écouter Dieu. C'est important de savoir ça, c'est que Dieu parle, mais écouter Dieu, c'est un travail particulier. Et parfois, nous, on est très étonnés de ne pas entendre Dieu, de ne pas savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, mais en réalité, ça nous demande parfois, alors évidemment, Dieu peut nous parler au quotidien, par une personne qui nous parle, oui, mais il y a des moments aussi où on a besoin, nous, de nous disposer à pouvoir écouter Dieu. Et donc, le jeûne peut avoir cette fonction-là. Et nous avons un beau texte que nous allons voir tout à l'heure dans le Nouveau Testament qui montre cela noir sur blanc. Autre fonction du jeûne, le jeûne peut venir lorsqu'on a un besoin particulier de revêtement spirituel pour un temps de combat spirituel, pour se préparer à un moment qui est intense spirituellement. Dans la Bible, on voit aussi que les croyants jeûnaient dans des temps spécifiques où ils disaient « Là, j'ai besoin d'une force de Dieu, j'ai besoin d'une onction de Dieu particulière, j'ai besoin que la puissance de Dieu soit avec moi. » Eh bien, on prend un temps de jeûne et de prière. Et puis, une dernière fonction possible du jeûne, c'est que le jeûne peut être mobilisé. C'est la fonction qu'on voit le plus dans la Bible lorsqu'on a un besoin d'humiliation profonde devant Dieu. Quand on sent qu'on a besoin de s'humilier devant Dieu, on a besoin de lui demander pardon, on a besoin de répandre notre cœur, eh bien le jeûne est aussi une pratique que l'on voit dans la Bible dans ce cadre-là. On peut passer. Pourquoi jeûner? Alors là, on va vraiment être dans l'axe fondamental, mais ensuite, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Le jeûne a pour objectif de nous disposer tout entier pour les activités spirituelles, d'être tout entier disposé pour les activités spirituelles. Alors, qu'est-ce qui est la particularité du jeûne? C'est que le jeûne va nous amener, si vous voulez, à une prière qui implique tout notre corps. Lorsque nous prions, en temps normal, notre prière implique deux éléments, notre pensée et notre esprit. On ne peut pas prier si on ne prie pas en esprit. D'accord? Donc, dans le Nouveau Testament, on parle particulièrement de la prière en esprit, pour parler notamment de la prière en langue, ce genre de choses, mais en réalité, on prie toujours avec notre esprit. D'accord ? Notre esprit est la partie de notre être qui nous permet d'être en relation avec Dieu. D'accord ? Donc je prie toujours en esprit, et la majorité du temps, nous prions aussi avec notre intelligence. Lorsque je prie, je réfléchis à ce que je dis, donc je suis en communion avec Dieu par mon esprit, mais je dis aussi des choses à Dieu. Le jeûne a cette particularité qu'il va amener même notre corps à être en prière. Donc ce n'est pas juste mon esprit et mon intelligence, mais si vous voulez, notre corps tout entier va se disposer à la prière, se mettre en état de prier, en état d'écouter Dieu, en état de le chercher, en état de nous approcher de lui. Alors ceux qui ont déjà jeûné un peu, vous savez que ça c'est très théorique, mais que dans la pratique ça se vit très facilement. Dans la pratique, quand on prend un temps de jeûne, on sent en soi, on sent en nous qu'on est vraiment beaucoup plus disposé, beaucoup plus à l'écoute. Alors évidemment, déjà si on éteint tous nos téléphones, nos smartphones et tout ça, évidemment on est déjà un peu plus libre, on va dire ça. Mais si en plus notre être suit, notre corps suit, eh bien on sent qu'on est davantage disposé. Alors c'est très paradoxal parce qu'en réalité la pratique du jeûne, c'est une pratique qui est difficile en fait, puisqu'elle va à l'encontre de notre habitude. Mais malgré tout, très rapidement, quand on le fait, on sent vite qu'il se passe sur le plan spirituel autre chose qui vient compenser, si vous voulez, le truc qui me dit « j'ai faim ». D'accord ? Donc on sent que spirituellement, on se sent aussi fortifié et encouragé pour chercher la face de Dieu. On peut passer. Merci Olivier. Tu as changé de machine ? Ah non, parce que ça va plus vite. C'est... Okay. Alors, une autre fonction qu'on trouve aussi au jeûne, et c'est une fonction du jeûne qu'on peut trouver dans la Bible, mais qui a été beaucoup documentée dans l'histoire de l'Église, beaucoup documentée dans le sens où, notamment les réformateurs aussi, ont parlé de cet aspect du jeûne. C'est un aspect qui est spirituel et qui est en même temps humain, mais on sait que voilà, dans la vie avec Dieu, tout va ensemble. C'est que le jeûne a pour fonction, peut avoir pour fonction de nous aider à dompter les puissances de notre nature humaine, les réclamations naturelles de notre chair et leur influence sur nous. Lorsque je jeûne, j'apprends à me maîtriser. J'apprends à maîtriser ce que mon corps me réclame. J'apprends à maîtriser les exigences de mon corps. Et j'apprends à dire à mon corps, non, c'est quand je voudrais. J'apprends à expliquer à mon corps que la domination ne vient pas de ce qu'il me demande, mais vient du choix que je fais en un temps particulier de répondre. Donc nous avons naturellement une attirance, notre être en tant qu'humain est attiré naturellement vers certaines choses, vers certains plaisirs, et notamment vers le plaisir de la nourriture. Si bien que la nourriture peut prendre énormément de place dans notre vie, dans notre pensée, dans nos habitudes. La nourriture peut devenir une obsession. Pas vous. Mais la nourriture, naturellement, nous attire. D'accord ? D'ailleurs, on pourrait faire le test. Qui, dans cette pièce, peut dire honnêtement, je n'aime pas manger ? N'hésitez pas. Si vous dites, moi, franchement, je n'aime pas manger. C'est un supplice pour moi de manger. Il n'y a personne. Ce qui veut dire que nous aimons tous manger. Je ne parle pas de la nécessité de manger. Mais en fait, nous aimons manger. D'accord ? Et on peut insister sur le fait que nous aimons manger. Nous avons besoin de manger et nous aimons manger. La preuve, c'est que nous cherchons toujours des mets qui nous plaisent. Puisqu'en réalité, on pourrait bien vivre avec du pain, de l'eau, un petit peu de protéines, un petit peu de, voilà, un petit peu de légumes, et ce serait fait. Mais en réalité, nous avons une attirance naturelle pour la nourriture qui est saine, hein, c'est pas problématique. Mais le jeûne nous apprend à nous maîtriser. Pourquoi ? Parce que la nourriture est la première réclamation du corps. La première chose que le corps me réclame, c'est la nourriture. Et lorsqu'on jeûne, on apprend à maîtriser cette réclamation-là, avec aussi comme idée qu'on apprend à mieux maîtriser les autres réclamations de notre corps. Ce n'est pas parce que mon corps, ma chair, me demande quelque chose que je dois lui donner. D'accord ? Alors, quand on parle de maîtrise du corps, vous pouvez peut-être tous avoir l'intuition, vous en connaissez, ou peut-être que vous-même vous êtes comme ça. Il y a des personnes qui sont tellement dépendantes de la nourriture qu'après un quart d'heure, après l'heure normale du repas, ils deviennent désagréables. Donc moi je mange à midi 7, midi 27, tout le monde valse parce que j'ai faim. Mais pour un chrétien, c'est pas à la gloire de Dieu. Parce que ça veut dire que mes attitudes, mes comportements avec les autres vont être dépendantes de ma chair. Et donc si j'ai faim, alors tout le monde m'énerve. Et donc vous voyez que ça, c'est une fonction du jeûne, avec l'idée évidemment que si j'apprends à dompter ça, peut-être que j'apprendrai aussi à dompter le reste. Que j'apprendrai à dompter ma langue, que j'apprendrai à dompter mes envies, mes pulsions, mes impulsions. Et donc, je crois que c'est... J'ai un trou, je ne sais plus c'est lequel. C'est Luther ou Calvin qui disait que le jeûne nous apprend à tenir notre corps en bride. Vous voyez, en bride, comme on... Voilà. Donc c'est aussi une fonction qui est là. Alors vous avez un verset ici qu'on en a déjà parlé il y a quelque temps, mais qui donne un peu l'idée de ce que c'est. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les sourcils de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quand je suis, on en a parlé récemment, quand je suis dans le bonheur, la joie des excès du manger et du boire, hein, je suis beaucoup moins disposé aux choses d'en haut. Et donc, de temps en temps, se dire, allez, là, je vais me maîtriser, là, je vais dire non à ma chair, j'apprends, si vous voulez, à me disposer aux choses d'en haut. On peut passer à la suivante. Donc ça, on l'a dit, le jeûne nous apprend à nous maîtriser, il apprend la maîtrise de soi. Celui qui sait dompter son estomac sera davantage en mesure de dompter ses autres appétits charnels. Et le jeûne nous prépare à une vie moins dépendante de nos besoins naturels et plus disposée à la vie spirituelle. Vous savez qu'il y a, en fait, c'est très compliqué, mais il y a en fait une fine limite entre mes besoins et mes désirs charnels. Parce qu'en réalité, manger, j'en ai besoin. Mais à partir de quand ce besoin devient un excès de table, comme dit la Bible? Donc on est en quelque chose qui est juste un besoin de mon corps, mais qui peut vite devenir un péché, finalement. D'accord? Même chose, si on en a parlé tout à l'heure, même chose que la sexualité. La sexualité, c'est un besoin normal de l'être humain. C'est un besoin normal de l'être humain, et c'est un besoin que Dieu bénit dans un cadre particulier. Mais à partir de quand est-ce qu'on en arrive, justement, à glisser de l'autre côté, dans l'inconduite sexuelle? Donc vous voyez que il y a vraiment un travail à faire pour pouvoir maîtriser nos besoins, maîtriser nos pulsions. On peut passer. Donc, jeûner, c'est aussi apprendre à se maîtriser. Et jeûner, comme on l'a dit, c'est augmenter notre réceptivité spirituelle. Lorsque l'on jeûne, on n'est plus à l'écoute. Le jeûne sensibilise nos sens spirituels. Mes sens spirituels sont plus disposés. Je peux mieux comprendre, je peux mieux entendre, je peux mieux recevoir. On peut passer. Nous voyons dans la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus a jeûné. Vous le saviez, n'est-ce pas? Il a jeûné, on a le texte dans Matthieu 4, 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors ici, contrairement à ce que disent certains, ce texte parle bien d'un jeûne spirituel. D'accord? Parce que parfois, on dit juste, oui, mais il n'y a pas à manger dans le désert, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Ici, on parle vraiment d'un jeûne qui était un jeûne qui était lié, si vous voulez, à ce que Jésus avait à faire spirituellement. Il a jeûné 40 jours. Donc on a quand même un exemple, notre Seigneur Jésus a jeûné. On peut passer. Nous voyons par exemple aussi que Moïse a jeûné. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Donc Moïse aussi a jeûné. On peut passer. On peut passer encore. Le jeûne est une pratique de piété qu'on nous relate dans la Bible. Alors voyez par exemple dans Luc 2, 37, il nous est dit « Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Alors là, nous avons trois pratiques spirituelles qui sont données en un. Premièrement, la prière. Deuxièmement, l'éveil. Elle servait Dieu nuit et jour. Et puis, le jeûne. Donc vous voyez que les croyants jeûnent. Les croyants de la Bible jeûnent. C'est une pratique, en fait, qui fait partie intégrante de la spiritualité, de la marche avec Dieu. On peut passer. On peut passer celui-là aussi. Les disciples de Jésus sont appelés à jeûner. C'est Jésus lui-même qui en parle. Si vous voyez Matthieu 9, 14 à 15, il est dit, alors les disciples de Jean viennent à lui, disant, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Et Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils être dans le deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront. D'accord? On peut passer à la suivante. Ce que Jésus est en train de dire, donc les disciples sont là en train de s'étonner, de dire « Mais pourquoi est-ce que les disciples de Jésus ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit « Actuellement, moi, l'époux, je suis sur terre. Je suis là. Et donc, le temps est à la joie. Le temps est à la célébration. Le temps est à l'allégresse, pour reprendre le thème de ce culte. Et donc, ce n'est pas le temps de la tristesse, ce n'est pas le temps de la lamentation, ce n'est pas le temps du jeûne, c'est le temps de la joie. Mais dit Jésus, un jour l'époux leur sera ôté, il passera par la mort, il ressuscitera, mais en finalité Jésus ne sera plus physiquement avec nous. Et alors dit le texte, alors ils jeûneront. Ah, donc vous voyez, c'est quand même très clair que Jésus s'attend à ce que ses disciples, après son départ, jeûnent. Ils jeûneront. Alors ce jeûne des disciples après le départ de Jésus, c'est un jeûne, si vous voulez, qui est un mélange d'une tristesse et d'un désir ardent. de Jésus. Jésus n'est plus là avec nous, par son esprit il est là, mais il n'est plus là, on ne sait plus lui parler comme lorsqu'il était sur terre. Et donc les disciples vont jeûner par soif de sa présence, par désir de se rapprocher de lui, par envie d'être en contact avec lui. On va jeûner, non pas par la tristesse juste qu'il ne soit pas là, mais vous voyez cette tristesse du désir. Oh Jésus, je veux être près de toi. Oh Jésus, je veux t'écouter. Oh Jésus, tu n'es pas là, mais je veux sentir ta présence. Je veux écouter ce que tu dis. Je veux être au contact avec toi. Donc les disciples vont jeûner une fois le départ de Jésus pour exprimer leur ardent désir de se rapprocher de Dieu, d'être à son écoute et de pouvoir ressentir pleinement sa présence. On peut passer. Le jeûne exprime un désir profond de Dieu, une profonde soif de Dieu qui va jusqu'à l'abandon de la nourriture. J'ai tellement soif de Dieu, j'ai tellement envie d'être rempli, de l'écouter. Je mets de côté les divertissements et tout ça. Là, je me concentre sur toi, Seigneur, et je mets tout le reste de côté. Par le jeûne, le croyant exprime qu'il a un désir ardent d'être nourri d'en haut aussi, sachant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque je jeûne aussi, j'affirme que la nourriture dont j'ai besoin, ce n'est pas juste la nourriture que je fais dans ma petite poêle, c'est la nourriture d'en haut. Je peux être nourri d'en haut. Je peux être nourri par la parole de Dieu, je peux être nourri par la prière, je peux être nourri par ce que Dieu a à me dire. Donc en fait, le jeûne, c'est une façon aussi de concrétiser cette vérité-là. Je ne vis pas de pain seulement, je ne vis pas de nourriture seulement, je vis aussi de ce que Dieu me dit, je vis aussi de ce que Dieu me révèle, de ce que Dieu m'apprend. On peut passer. Alors, maintenant, on va voir les différents versets qui parlent du jeûne comme humiliation de l'âme. Alors, on ne va pas tous les lire parce qu'ils parlent toujours à peu près de la même chose, mais c'est pour montrer quand même que dans la Bible, clairement, il y a évidemment différents types de jeûne, mais une fonction du jeûne qui existe, c'est le jeûne pour s'humilier. Alors, par exemple, là, on parle Lévitique 16, Lévitique 23, on parle... du Yom Kippour, donc c'est-à-dire du jour du grand pardon, du jour annuel de demande de pardon à Dieu. Et il est écrit ici, « C'est ici pour vous une loi perpétuelle, au septième jour, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. » Donc vous humilierez vos âmes, cette expression renvoie directement au jeûne. Vous humilierez vos âmes, vous jeûnerez. Et donc, c'était un jour qui était consacré au jeûne, un jour d'humiliation de l'âme. Donc, le jeûne peut être une manière d'humilier son âme, de répandre son âme, de dire à Dieu combien on a besoin de son pardon, de sa grâce. Donc, c'est vraiment mon âme s'humilie jusqu'à abandonner la nourriture. En réalité, la nourriture est associée, si vous voulez, à la joie. Quand on mange, on est content. Non, pas vous. Mais, c'est bien, ça c'est délicieux, ça goûte bien avec une petite sauce, ça c'est fantastique. Et donc, il y a la joie. Et quand je suis dans une situation où je veux m'humilier devant Dieu, j'ai pas faim. C'est un peu comme quand, je vous souhaite que ça ne vous soit jamais arrivé, mais j'imagine que ça vous est déjà arrivé, quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, en général, vous n'avez pas faim. Le jour où on vous annonçait le décès de votre parent, vous n'avez pas eu faim. Petite raclette, non, je n'ai pas faim. Et donc, c'est un peu la même chose. Il y a des moments dans la vie spirituelle où notre âme veut tellement s'humilier devant Dieu, on dit, je ne saurais pas manger. Je me souviens comme ça d'un chrétien qui avait un jour, il s'était détourné de Dieu gravement. Et il savait bien que ça avait eu vraiment des conséquences sur d'autres gens. Je pense qu'il a jeûné 4 jours. Mais ce n'est même pas vraiment un jeûne où il avait décidé de... En fait, il a été complètement écœuré. Plus de faim, tellement son âme était humiliée. Donc en fait, le jeûne, si vous voulez, il suit l'état de notre âme. Le jeûne, ce n'est pas une pratique individuelle, indépendante. Il suit l'état de notre âme. Il suit vraiment dans ce dans quoi notre âme peut être. Alors, on va passer. On peut aussi passer, c'est toujours la même idée. Vous savez aussi que le jeûne peut être une démarche de supplication envers Dieu. Donc on a parlé d'humiliation, avec davantage l'idée de la repentance, mais ça ne veut pas dire que la repentance doit toujours se faire avec le jeûne, ça veut dire que le jeûne peut accompagner la repentance. Et puis ici, on a un autre texte où on nous parle du jeûne comme supplication. Vous connaissez le texte où l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David est près de la mort, et on dit que David prie pour l'enfant et qu'il jeûne pour supplier Dieu d'intervenir en faveur de l'enfant, pour supplier Dieu. Donc le jeûne, si vous voulez, peut être une prière par le corps. Donc il y a mon esprit qui prie, mon cœur prie, et cette prière va jusqu'à mon corps, je te supplie, Seigneur, de faire grâce. Alors, le jeûne n'est pas une manière de faire plier Dieu à notre envie. Pas parce que je jeûne, parce que Dieu va faire ce que je veux. Mais le jeûne est une forme de prière en soi. Il accompagne ma prière et il est une forme de prière en soi. Vous voyez d'ailleurs que là, David n'a pas été exaucé. Donc, c'est bien la preuve que le jeûne n'est pas méritoire en lui-même. On peut passer. Je vous rappelle, petite parenthèse, que le Nouveau Testament nous parle des supplications que nous exerçons en général très peu, nous les chrétiens. Vous voyez dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, faites part de tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » C'est intéressant cette distinction. Il y a la prière et il y a la supplication. C'est simple à comprendre. Juste avant, on a l'exemple de David qui va perdre son enfant. Ça, c'est la prière de la supplication. La prière de la supplication, c'est on te dit, tu vas perdre ton enfant. Quelle prière tu fais quand on te dit ça? Tu ne fais pas la petite prière qu'on fait en général. Seigneur, s'il te plaît, parce que... Amen. Tu ne fais pas ça. Tu te répands. Tu supplies Dieu. Tu déverses toute ton âme. La Bible nous dit que nous sommes appelés à présenter à Dieu des supplications. Je suis appelé à supplier Dieu. Alors oui, certainement pour mes proches, mais je dois supplier Dieu pour le salut des gens dans la rue de Baïmont. Je dois supplier Dieu. Je dois supplier Dieu pour les malades de mon assemblée qui traînent une maladie depuis des années et des années. Je dois supplier Dieu. Et ce n'est pas juste de dire « Seigneur, souviens-toi d'un tel, amen ». Mais de réellement avoir tout notre cœur, tout notre être qui demande à Dieu quelque chose. Voyez toujours Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc vous voyez que, en réalité, le jeûne dont on nous parle dans l'Ancien Testament, on n'a pas de raison de le récuser, puisque ce jeûne dans l'Ancien Testament, c'est une supplication, et que nous, nous sommes appelés aussi à faire des supplications à Dieu. On peut passer. On continue. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc on doit aussi, et c'est pour ça que les jeûnes sont importants, parce que les jeûnes, ce sont des temps de supplication. Bien sûr qu'on prie tout le temps. On prie tous les jours. On prie lundi, mardi, mercredi, en mangeant, on s'amuse. Très bien. Et puis il y a des jours où on dit, oh, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, on te supplie. On te supplie d'intervenir pour ça. On te supplie de toucher telle personne. On te supplie parce qu'on a besoin que tu interviennes. D'accord ? Et cette supplication, c'est aussi un langage de foi. Ce n'est pas un langage de défaitisme, c'est un langage de foi. Je crois que tu peux faire, Seigneur. Et parce que je crois que tu peux faire, je mets du temps à part pour te supplier de faire quelque chose. Et vous connaissez la parabole du juge inique, qui nous parle aussi de l'importance de la persévérance dans la prière. De continuer à demander avec un cœur qui supplie. On peut passer. Passons. Passons. Ils ont faim, Olivier, donc on passe. On peut passer. Oui, tu peux laisser aller aussi. Celle-là aussi. Vous voyez par exemple ici que dans le texte de Néhémie, on nous parle des enfants d'Israël qui s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne, et c'était un jeûne qui était lié à la confession des péchés. Donc ils ont assemblé l'ensemble du peuple pour jeûner, pour demander ensemble le pardon de Dieu. Donc vous voyez que ce sont des pratiques que l'on voit dans la Bible, qui sont instruites dans les Écritures. On peut passer. Vous voyez aussi ce texte de Daniel, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Passons. Encore, merci. Vous voyez aussi que Dieu invite son peuple à la repentance accompagnée de jeûnes. Donc c'est pas seulement que le peuple choisissait de prier Dieu de cette façon, c'est que Dieu lui-même invitait son peuple à prier de cette façon, à se repentir et à jeûner. « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. » Ah, on pourrait dire, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change pour Dieu que je mange ou que je ne mange pas? Ah, mais c'est lui qui le demande. Donc, ça veut dire que c'est important dans la vie spirituelle d'un point de vue général. On peut passer. Oui, encore, merci. Encore. Encore. Vous voyez ici, c'est intéressant, le contexte est le contexte, mais c'est intéressant de le noter. Psaume 35, verset 13, il dit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » On parle quoi ici? On parle du jeûne d'intercession. Lorsqu'ils étaient malades, les autres, qu'est-ce que je fais? Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Donc c'est quand les autres étaient malades, je jeûnais pour eux, je priais pour eux. Vous voyez que c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la Bible, le jeûne d'intercession pour les autres, et en particulier pour les malades. Passons. Verset important, hein, parce qu'il y a toujours bien un petit comique pour dire « Oui, tout à fait, mais c'était dans l'Ancien Testament. » Dans la Nouvelle Alliance, nous ne trouvons plus de jeûnes, c'était avant. Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, donc on parle ici des responsables de l'Église, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? 1. L'Église du Nouveau Testament jeûnait. 2. Les responsables de l'Église jeûnaient ensemble. 3. Alors qu'ils jeûnaient, Dieu leur a parlé. Ça veut dire que le jeûne ouvre aussi la voie à la révélation de Dieu, à ce que Dieu parle, à ce que Dieu se manifeste. Et là, Dieu leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Hein. Donc, ça montre bien que les choix de responsables doivent être des choix qui viennent de Dieu. Et puis ensuite, voyez, pour que le texte veut vraiment nous assommer. Hein. Ensuite, alors, après avoir jeûné et prié. Donc, ils jeûnent et ils prient pour choisir. Mais une fois qu'ils doivent les envoyer, ils rejeûnent et ils reprient. On a la belle vie, hein, nous. On a la belle vie, mais c'est vrai, hein. Dites la vérité, on est you-you, nous. Hein? Ah bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, oui, on va choisir des responsables. Tiens, un petit papier. Tiens, que tu veux mettre qui? Mets un nom, vas-y, mets un nom. Et toi, mets un nom. Il priait et il jeûnait. Vous connaissez Seigneur Jésus qui priait toute une nuit pour prendre une décision. Ça veut dire que c'est important de prendre le temps de s'arrêter devant Dieu. Et c'est peut-être ça que nous avons perdu dans notre époque, c'est de s'arrêter devant Dieu. Le jeûne m'apprend à m'arrêter devant Dieu. Comment est-ce que je peux être devant Dieu? Je peux faire comme ça. Salut Dieu, ça va? Salut Seigneur, ça va? Merci hein, pour la bénédiction. Et Seigneur, tu veux pas me pardonner de mon péché? Allez, merci. Hein. Ou alors je peux m'arrêter, dire Seigneur.
Je t'en supplie, touche Nicolas. Tu vois vraiment qu'il a un sale caractère. Tu vois qu'il doit vraiment... Et là, je reste devant Dieu. Donc, nous devons apprendre à rester devant Dieu. Nous devons apprendre que Dieu est un Père qui nous ouvre ses bras, mais nous devons apprendre qu'il ne nous attend pas dans des petits contacts passagers seulement. Bien sûr qu'il faut ça aussi, hein. Bien sûr, quand on prie quelques minutes le matin, bien sûr. Mais il y a des temps aussi où je dois m'arrêter et dire, Seigneur, là j'ai besoin que tu m'aides. Là j'ai besoin que tu me parles. Là j'ai besoin que tu agisses. Passons. Autre verset, je termine. Hein. Je termine, mais je vais déjà faire une partie des annonces. Donc, pas de tes annonces, mais de mes annonces à moi. Oui. Ça, c'est le même verset, on peut passer. Voilà, verset 14, acte 14, 23. Nous voyons, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, vous voyez qu'encore une fois, il choisit des responsables, comment ? En jeûnant et en priant. Donc, il y a une demande particulière de Dieu qui est qu'il intervienne. Alors, on peut passer, je vais te dire stop. Alors, oui, tu peux faire stop ici. Le verset aussi, ici, suggère que certaines actions contre les puissances démoniaques demandent la prière et le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Vous voyez que le jeûne est un dispositif que l'on peut avoir quand on doit faire des combats spirituels particuliers. Hein, il y a des choses que je peux vaincre par la prière, et puis il y a des choses qui vont me demander d'adjoindre le jeûne en tant que prière intensive. Passons. Oui, tu peux y aller. Tu peux y aller. Oui, merci. On peut passer. Oui, tu peux passer. Ça, ils savent bien. Ça aussi, oui. Oui, ils ont déjà lu beaucoup ce texte. Encore. Merci, oui. Alors, en pratique, quand on jeûne, nous allons avoir un jeûne d'une journée. Il est évident que, premièrement, c'est la règle numéro un. Vous la connaissez, vous l'aimez bien, cette règle-là. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Donc, il n'y a pas de police qui va vérifier que vous faites ce que vous voulez. Deux, si vous voulez jeûner ce jour-là, commencez par ce que vous êtes en mesure de faire. Si vous êtes du genre, il faut que je mange à midi 3, pour la première fois jeûner toute la journée, vous allez peut-être avoir du mal. Si par contre vous êtes quelqu'un qui dit, mais moi ça va, je sais tenir mon estomac, ben, vous pouvez tout à fait vous le permettre. Donc, commencez par ce dont vous êtes capable. Pour certains, ce sera jeûner un repas. La petite tartine avec le café du matin, ou alors la grosse bolognaise du soir. Ce que vous voulez. Mais vous faites ce que vous vous sentez capable de faire en se disant quand même, ben, je fais un effort, évidemment. Si vous dites, je mange toujours un chocotof après mon repas, aujourd'hui, il n'y aura pas de chocotof, oui, c'est pas un très grand jeûne quand même. Donc, il s'agit quand même de se dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas que je fais un sacrifice pour que Dieu me dise, bravo, c'est bien, t'as pas mangé. Non. C'est que je veux faire ça pour être plus proche de Dieu et pour chercher sa face. Donc, premièrement, on fait ce dont on est capable. Deuxièmement, on prévoit des moments de prière dans la journée, c'est important, puisque c'est quand même ça le but, hein. C'est pas juste pour se maîtriser, c'est pour prier. Et puis, évidemment, on doit allier le jeûne avec nos autres disciplines spirituelles, lecture de la Bible, évidemment, qui va nourrir notre prière. Mais aussi, le jeûne ne peut pas aller contre nos besoins de santé. Donc, le jeûne est une invitation que l'on fait. Il est évident que si vous devez prendre des médicaments, que si vous êtes enceinte, si vous devez prendre un médicament, si vous avez ce genre de choses, nous vous invitons à ne pas jeûner. D'accord ? Vous devez prendre vos médicaments normalement. Maintenant, vous savez bien qu'il y a toujours des possibilités. Il y a des gens qui disent, ben voilà, je dois manger, mais je ne vais pas mon truc à l'huile d'olive comme d'habitude. Ça, je vais m'en passer. D'accord ? Donc, c'est aussi une forme de jeûne. Passons. Passons encore. Donc, nous aurons une journée de jeûne le 11 novembre. Tu peux passer. Tu peux encore passer. dans laquelle nous allons inviter chacun à avoir ces moments de prière personnelle, évidemment. Donc pendant la journée de jeûne, vous pouvez aussi prier pour vos sujets de prière. Vous n'êtes pas obligé de prier que pour les sujets collectifs. D'accord ? Mais en plus de ça, on invite ceux qui le peuvent, pas forcément toute la journée, mais ceux qui le peuvent en mesure de leur possibilité d'adjoindre des sujets de prière collectifs. Qui sont les suivants ? On peut passer. Premièrement, notre consécration au Seigneur, que nous puissions vraiment nous consacrer à Dieu, véritablement, en tant qu'Église, que nous puissions être proche de lui, bouillant, grandissant dans la sainteté, dans l'amour, dans la prière, que nous puissions être mis à part pour Dieu, tout par-delà. Deuxièmement, nous voulons prier pour l'évangélisation. Nous voulons dire, Seigneur, tu vois le nombre de gens à qui nous parlons de toi. S'il te plaît, touche des cœurs. Hier, une action d'évangélisation a été faite. Seigneur, que ce qui a été semé agisse. Vous avez vu le verset « Certains types de démons ne passent que par le jeûne et la prière ». Vous pensez bien que nos contemporains qui sont liés par 36 000 chaînes, ce n'est pas par une prière de 30 secondes qu'ils vont... Nous devons vraiment demander à Dieu le salut de nos contemporains. Et puis troisièmement, nous voulons prier pour les malades. Nous alignons des listes de malades semaine après semaine. Ça ne doit pas nous faire oublier à quel point c'est un terrible fardeau pour eux, et à quel point nous devons supplier Dieu de leur faire grâce. Nous l'avons déjà fait, mais là nous le faisons d'une manière particulière, avec une modalité particulière, dans un esprit de supplication particulière, qu'il intervienne pour tous nos malades, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il étende sa main du haut du ciel. On voit dans la Bible que Dieu fait des miracles parfois de lui-même. Et puis on voit aussi dans la Bible, si vous lisez bien, des moments où Dieu fait des miracles, parce qu'on l'a supplié de le faire. Parce qu'on lui a dit, Seigneur, là, s'il te plaît, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, ce que nous voyons dans la Bible, nous pouvons, nous aussi, le mettre en œuvre, en respectant la souveraineté de Dieu, bien sûr. Mais rien ne nous empêche de lui demander et de lui supplier, de le supplier de faire grâce. Amen. Merci beaucoup.